Quelques exemples de techniques humaines issues de la science humaine, et puis également quelques exemples de techniques naturelles issues des sciences de la nature, hein, pour faire un petit peu un comparatif sur deux, trois thèmes qui se recoupent ou voire sont les mêmes. Alors, je vais commencer par trois exemples de sciences des humains, hein, en matière écologique. Alors, le premier exemple, hein, est très connu. Ça concerne l'énergie éolienne et solaire, hein, que j'appellerais éolaire. Bon. Alors, effectivement, hein, on peut penser que ces énergies, hein, sont des énergies qui vont apporter des solutions aux problèmes énergétiques humains. Cependant, quelques aspects, hein, que je vais voir maintenant vont montrer que l'éolaire, ce n'est pas forcément mieux que le pétrole, le charbon, le gaz, etc. Alors, pour commencer, un point sur ce qu'on appelle la capacité de production d'électricité sur une année. Une comparaison entre l'éolaire d'une part et fossile nucléaire d'autre part. Alors, une année comporte 8 760 heures et le nombre d'heures pendant lequel l'éolien et le solaire produisent de l'électricité s'établit à 2 015 heures en moyenne. Côté fossile et nucléaire, ce nombre d'heures pendant lequel les combustibles fossiles et nucléaires produisent de l'électricité s'établit à 5 606 heures en moyenne aussi, c'est-à-dire presque trois fois plus. Ce qui n'est pas négligeable, hein, dans une situation planétaire énergétique où tous les 15 ans, la consommation d'électricité est multipliée par deux. Ceci a aussi pour conséquence que les surfaces qui doivent être consacrées, hein, par exemple pour produire la moitié de l'électricité actuellement consommée sur la planète, si c'est une production en éolien, il faudrait l'équivalent de la surface de l'Australie, avec des éoliennes donc, pour assurer la moitié de la consommation actuelle d'électricité. Si c'est en solaire, il faudrait l'équivalent de la surface de l'Amérique du Sud pour, en panneaux solaires, pour assurer la moitié de la consommation d'électricité actuelle. Bon. Alors, l'éolaire passe pour être une énergie propre. Et ça non plus, ce n'est pas si évident. En effet, hein, par exemple, hein, pour recueillir la lumière solaire, il faut du tellure, hein, et le tellure est quelque chose qui favorise un certain nombre de cancers, pour stocker l'énergie dans des batteries, puisque l'électricité, en principe, ne se stocke pas. Et donc, pour quand même la stocker, il faut un certain nombre, hein, de substances. Alors, il faut, par exemple, des nanomatériaux, comme le graphène, qui est cancérogène, comme les nanotubes de carbone, qui favorisent, disons, le même type de cancer que l'amiante. Il faut aussi du plomb fondu, qui favorise les infections respiratoires. Il faut également de l'antimoine fondu, qui favorise des troubles neurologiques. Il faut du diborane pour fabriquer les panneaux solaires eux-mêmes, hein, c'est-à-dire le silicium qui sert à recueillir la lumière solaire. Le diborane favorise les pneumopathies, hein, bon, etc., etc. Donc, bien évidemment, hein, que des milliers de produits que vous utilisez tous les jours contiennent des substances nocives, hein, c'est clair et net. Évidemment que l'éolaire n'a pas le monopole, mais l'éolaire n'est pas exempt, hein, de produits toxiques pour pouvoir fonctionner. Alors, deuxième exemple, les influences climatiques, parce que l'éolaire a des influences climatiques, notamment sur le réchauffement global. Par exemple, toujours dans les batteries de stockage, il faut utiliser du brome, Et il faut savoir que un seul atome de brome détruit 450 000 molécules d'écran d'ozone. Par ailleurs, les éoliennes, lorsqu'elles sont en fonctionnement, elles coupent les mouvements turbulents de l'atmosphère, hein, qui répartissent la fraîcheur sur l'ensemble de la planète. La chaleur, hein, monte et ensuite les vents entraînent cette chaleur vers des lieux plus frais. Et quand il y a des parcs éoliens, eh bien, ce transfert de chaleur est coupé, hein, et l'apport au réchauffement global, hein, est estimé à 1 degré par décennie. Effectivement, hein, sur des parcs éoliens au Texas, entre 2003 et 2011, des mesures ont été faites. Et il y avait 111 éoliennes en 2003, il y en avait presque 24 000 en 2011. Et en fait, hein, ce qui a été mesuré comme chaleur supplémentaire au-dessus des parcs éoliens, c'était 0,72 degrés de plus. Donc presque 1 degré, hein, puisque c'était en 8 ans et 1 degré par décennie. Bon, donc ça se tient. Donc en fait, hein, bien évidemment, hein, que les 50 000 centrales thermiques qui fonctionnent au charbon, etc., réchauffent énormément l'atmosphère. Mais l'éolien, hein, n'est pas non plus exempt, hein, de ce type de choses. Par ailleurs, les impacts sur la faune ne sont pas négligeables, hein, puisque notamment les chauves-souris, dont les parois des cages thoraciques ne sont pas suffisamment rigides, quand elles croisent des éoliennes qui tournent à 200 km/h, eh bien, elles explosent. Alors, en Allemagne, hein, 200 000 chauves-souris par an sont mortes chaque année, hein, et aux États-Unis, 600 000 chauves-souris par an décèdent également. Donc, au total, hein, si l'on voit ces aspects dont je n'ai donné que quelques exemples, finalement, l'éolien n'est pas tellement plus propre que les autres énergies. Alors, est-ce que l'éolien est une énergie renouvelable? Alors, a priori, la réponse est évidente. Bon. Soleil, vent, bon. Mais pour faire fonctionner des panneaux solaires et des éoliennes, il faut des minerais et des terres rares qui, exactement comme le pétrole et le gaz naturel, sont en voie d'épuisement. Par exemple, il faut du néodyme, c'est une des 17 terres rares qui existent, du néodyme pour fabriquer des aimants hyper puissants afin que les pales, évidemment, ne s'envolent pas dans tous les sens. Il faut également du dysprosium, autre terre rare, pour augmenter la durée de vie des aimants en question. Et ces deux terres rares, en 2035, il n'y en a plus. De même, hein, pour faire fonctionner les panneaux solaires, il faut de l'indium, hein, indispensable pour refléter la lumière solaire, et autour de 2025, il n'y a plus d'indium. Il faut également du rhénium, bon, et d'autres, qui sont tous en voie de disparition, exactement comme le pétrole et le gaz. Donc, pas davantage que les combustibles fossiles ou nucléaires, l'éolien n'est finalement renouvelable. Alors, quel est le bilan de l'éolien sur les émissions de gaz à effet de serre, puisque quand même leur objectif premier, c'est d'éviter, hein, de ralentir, de diminuer les émissions de dioxyde de carbone. Selon l'Agence internationale de l'énergie, en 2010, quand une unité d'énergie était produite, il y avait en moyenne 2,39 tonnes d'émissions de CO2, hein, quelles que soient les sources d'énergie utilisées. En 2013, quand une unité d'énergie était produite, il y avait en moyenne 2,37 tonnes d'émissions de CO2. C'est-à-dire que, il y a seulement 20 kilos de moins par rapport à ces plus de 2 tonnes, hein, d'émissions de CO2, alors qu'entre 1990 et 2013, il y a eu des millions de panneaux solaires supplémentaires et des dizaines de milliers d'éoliennes aussi supplémentaires. Donc 20 kilos de moins, c'est pas extraordinaire. Deuxième exemple, le Danemark. Alors, le Danemark, lui, il a environ 20 000 éoliennes qui assurent une certaine production d'électricité, mais il occupe la quatrième place mondiale pour les émissions de CO2 par habitant. Troisième exemple, l'Allemagne. L'Allemagne, donc, a tourné le dos à l'énergie nucléaire, hein, ce qui, en soi, est une bonne chose. Mais elle s'est tournée vers le charbon actuellement et elle va exploiter les gaz de schiste prochainement. En revanche, elle ne s'est pas tournée vers l'éolaire. Donc tout cela fait que, pas plus que le pétrole, le charbon, etc., l'éolaire n'apparaît comme porteur d'un avenir énergétique plus favorable. Alors, l'indéniable ingéniosité humaine peut-elle capturer directement le CO2 dans l'atmosphère? Pourquoi pas? Alors, par exemple, hein, il y a la serpentine. La serpentine, c'est une silicate. Hein, et effectivement, broyée en petits, tout petits morceaux, le CO2 est capté et puis il se solidifie. Hein, et donc, effectivement, ça paraît très bien. Le seul problème, c'est que cette expérience a été réalisée à toute petite échelle il y a 10 ans et que toutes les tentatives de faire la même chose à grande échelle ont échoué. Alors pourquoi pas, hein, toujours pour capter ce CO2 dans l'atmosphère, pourquoi pas aller avec des centaines de millions de tuyaux dans les mers et les océans pour plonger ces tuyaux à très grande profondeur, faire remonter les éléments nutritifs qu'il y a dans le fond, les disperser à la surface et ainsi favoriser le phytoplancton qui va absorber le CO2. Bon, effectivement. Simplement, les estimations montrent que chaque année, il serait possible de neutraliser 3 milliards de tonnes de CO2 par ce biais-là, alors que l'ensemble des activités humaines émet 42 milliards d'équivalents de tonnes d'équivalent carbone, et qu'il y a dans l'atmosphère environ 1125 milliards de tonnes de CO2. Donc, c'est pas non plus une perspective très, très porteuse. Il y a une dizaine d'autres technologies issues de la science des humains pour capter ce CO2, mais à chaque fois, soit à grande échelle, ça marche pas, ça ne marche qu'à petite échelle, soit on récupère 1 milliard, 2 milliards, 3 milliards par an. Alors, l'indéniable ingéniosité humaine peut-elle alors enfouir le CO2 dans des profondeurs terrestres et marines Alors, il y a actuellement 80 sites sur la planète dans lesquels on enfouit du CO2. Alors, ce n'est pas le CO2 directement. Le CO2 est transformé en acide carbonique. Et puis, l'acide carbonique est enfoui à grande profondeur, soit sous les mers et les océans, soit sous les terres émergées. En 2013, des ingénieurs de l'Institut national de l'environnement et des risques industriels, donc des ingénieurs français, ont examiné minutieusement chacun des 80 sites d'enfouissement. Et parmi la dizaine d'insuffisances qu'ils ont notées, on peut en citer trois. La première, c'est que tout comme lorsque l'on exploite du gaz de schiste et qu'on envoie donc de l'eau pour récupérer le dit gaz, eh bien, ça provoque des séismes. Et effectivement, l'injection d'acide carbonique provoque aussi des séismes et ouvre même de nouvelles failles sismiques, comme par exemple à Sleipner en Norvège, où une faille sismique de 12 km de long a fait suite à une injection donc, de carbone pendant l'acide carbonique pendant quelques années. La deuxième insuffisance, c'est que quand on transforme du CO2 en acide carbonique, cet acide carbonique n'a pas perdu le potentiel acidifiant du CO2. Donc quand l'acide carbonique se retrouve dans des roches, eh bien, il en dissout les minéraux, se crée des fissures par lesquelles, bien sûr, cet acide sort. Il redevient alors gaz carbonique. Et puis ensuite, ce gaz remonte. Et quand il émerge dans l'atmosphère, il redevient dioxyde de carbone. 74 des 80 sites d'enfouissement du CO2 étaient dans ce cas. Et puis enfin, bien entendu, le CO2 lui-même, les solvants utilisés pour le transformer en acide carbonique, tout cela contient du zinc, du manganèse, du cadmium, du plomb, du nickel, enfin, etc. Et la chaleur des profondeurs dans lesquelles est injecté cet acide carbonique, eh bien fait que tous ces éléments se libèrent et vont contaminer les nappes phréatiques, hein, qui sont forcément nombreuses, hein, puisque l'intérieur de la planète contient 3 fois plus d'eau douce que toutes les mers et tous les océans réunis. Donc il y a des nappes phréatiques partout. Bon, donc au total, hein, c'est pas non plus concluant. Hein, toutes ces techniques issues de la science des humains. En revanche, hein, les biosequestrations, c'est-à-dire les séquestrations de dioxyde de carbone par les écosystèmes terrestres et marins, là, c'est très efficace. Hein, alors, quelques exemples. Bon. Il y a tout d'abord les herbiers sous-marins, hein, qu'on appelle aussi prairies sous-marines ou posidonies. Bon, ils sont formés de fleurs, hein, qui poussent sous la mer, qui fleurissent sous la mer, qui vivent tout le temps immergées et qui, en plus, vivent une centaine d'années chacune, hein, c'est-à-dire plus qu'un humain. Bon. Et comme dans tout écosystème, la coopération enthousiaste d'un certain nombre d'espèces, hein, leur permet donc de prospérer. Alors, pour les herbiers, les palourdes trient, avalent les sulfures et les utilisent comme énergie. Hein, l'eau de mer, il y a toujours des sulfures. Bon, donc, les herbiers sont débarrassés de ça. Les idothéas, qui sont de petits crustacés, les limaces de mer, mangent les algues indésirables qui pousseraient sur les fleurs. Donc, ça aussi, pas de problème. Et puis, les loutres régulent joyeusement la population de crabes qui s'intéressent un peu, d'un peu trop près aux limaces de mer, etc. Le résultat de tout ça, c'est que chaque kilomètre carré d'herbier stocke 83 000 tonnes de CO2. Hein. Par comparaison, 1 km carré de forêt terrestre stocke seulement 30 000 tonnes de CO2, c'est-à-dire presque 3 fois moins. Quant aux forêts sous-marines de Varec, si elles étaient là où elles peuvent être, hein, si elles étaient en bonne santé, et si surtout il y en avait là où elles peuvent vivre, eh bien les Varec, eux, ils ont la capacité de stocker 13 500 milliards de tonnes de CO2, soit 12 fois plus que ce qu'il y a actuellement dans l'atmosphère. Les végétaux cryptogames ne sont pas en reste, hein, ce sont des végétaux qui ne donnent pas de fleurs et qui sont très présents dans les agglomérations urbaines, alors, il y en a beaucoup, et chaque année, ils stockent 14 milliards de tonnes de dioxyde de carbone sans problème. Les tourbières qui sont issues de décomposition végétale assure la garde actuellement de 1800 milliards de tonnes de CO2, hein, et ce depuis des milliers d'années. Et puis, hein, les zones humides, les mares, les marécages, les lagunes, etc., stockent aussi beaucoup. À titre d'expérience et qui a été concluante, une zone des marais de Chesapeake aux États-Unis a été vaporisée au CO2, dans des concentrations de 700 parties par million, alors que la concentration dans l'atmosphère, c'est 400 parties par million, hein, pendant 19 années consécutives, hein, et il n'y a eu aucun problème. Hein, tous ces végétaux ont augmenté de 32%, hein, leur absorption de CO2, notamment par le biais des sirpes, qui sont des végétaux assimilables à des joncs. Alors je précise, hein, qu'une partie par million, c'est 1 cm cube de dioxyde de carbone dans un mètre cube d'air atmosphérique. Actuellement, la concentration de carbone, hein, de dioxyde de carbone, est de 400 parties par million. Et là, pendant 19 années, cette portion de marais a été vaporisée, hein, à 700 parties par million, et ça n'a posé aucun problème, tout a été absorbé. Bon, donc, bien évidemment, hein, tous les écosystèmes terrestres et marins, je n'ai donné là que quelques exemples, stocke du CO2 en moyenne. Quand un écosystème stocke 1 kg de CO2, il n'en rejette que 0,62 g, c'est-à-dire moins d'un gramme. Ah, et donc, évidemment, c'est beaucoup moins que les puits de carbone imaginés par les humains. Bon, par ailleurs, hein, les écosystèmes stockent d'autres gaz de serre, hein, comme par exemple, hein, le protoxyde d'azote, qui est issu de l'emploi des engrais chimiques. Des dizaines de micro-organismes, hein, transforment ce protoxyde d'azote en d'azote atmosphérique, hein, c'est-à-dire un gaz totalement inoffensif, pour citer un autre exemple d'absorption. Donc en fait, hein, les biosequestrations s'avèrent beaucoup plus durables, hein, que toutes les techniques scientifiques humaines, hein, pour stocker ces gaz à effet de serre. Alors, un écosystème particulièrement important en période de réchauffement climatique, un gros stockeur de CO2, ce sont les déserts. Alors, les déserts, en effet, hein, ils stockent davantage de CO2 que les forêts tropicales, hein, parce que dans les déserts, il y a des micro-organismes, des lichens microscopiques et puis des bactéries aussi microscopiques qui coopèrent pour absorber le CO2 et l'enfoncer très profondément afin que, évidemment, les tempêtes de sable ne ramènent pas le CO2 dans l'atmosphère. Mais les déserts servent aussi, en période de réchauffement climatique, à récupérer l'albédo que le réchauffement a fait perdre, hein, par le biais donc de la fonte des glaces. Enfin, en effet, quand il y a un réchauffement global, les glaces fondent, les espaces de ce qui s'appelle la cryosphère, les espaces glacés, diminuent. Hein. Or, c'est embêtant parce que ces espaces étant de couleur blanche, eh bien, renvoient 80% du rayonnement solaire vers l'espace. Bon. C'est ça qui s'appelle l'albédo, hein, qui vient d'un mot latin, albédo, qui signifie blancheur. Hein. Alors, les déserts prennent le relais. Parce que les déserts, eux, ils ne renvoient pas 80%, hein, ils renvoient 30%, hein, de ce rayonnement solaire. Mais en période de réchauffement climatique, les déserts s'étendent. Et entre 30% et 80%, hein, 80% l'espace glacé renvoie 80% de rayonnement solaire, les déserts renvoient 30%. Entre 30 et 80%, il y a un rapport de 2,5, ce qui fait que si la planète multiplie par 2,5 ces déserts, eh bien, elle récupère l'albédo perdu, hein, par la fonte des glaces. Et évidemment, hein, qu'en période de réchauffement climatique, c'est un objectif parfaitement réalisable, puisque hein, les sols terrestres, hein, passent par une triple phase en cas de réchauffement. Hein. Il y a d'abord de la sécheresse, ensuite il y a de l'aridité, puis après il y a de la désertification qui donne des déserts. Bon, donc là encore, hein, les écosystèmes comme les déserts, hein, résolvent un problème environnemental, hein, qui est justement la perte de l'albédo. Mais les déserts rendent deux autres services écologiques particulièrement précieux en cas de réchauffement climatique. En effet, dans les déserts, il y a en permanence, hein, de nombreuses tempêtes de sable, hein, et les particules de sable prennent alors deux directions. Une s'élève dans l'atmosphère, hein, puisque, bon, aujourd'hui, à titre d'exemple, hein, les sables du désert saharien parviennent jusqu'en Finlande, hein, donc s'élèvent dans l'atmosphère et rencontrent une autre composante particulièrement avec un gros volume, hein, qui est la vapeur d'eau. En effet, hein, quand il y a un réchauffement climatique, il y a beaucoup plus d'évaporation, donc il y a beaucoup plus de gouttelettes de vapeur d'eau. Et cette rencontre entre beaucoup plus de particules de sable et beaucoup plus de gouttelettes de vapeur d'eau, eh bien, il va y avoir condensation de ces gouttelettes de vapeur d'eau autour de ces particules, hein, et il va y avoir donc l'assurance que même en période de réchauffement climatique, eh bien, la planète aura toujours des précipitations régulières. Alors, effectivement, au bout de presque 200 ans de réchauffement climatique, un peu moins, il y a toujours 110 000 km³ de précipitations chaque année. Hein, c'est régulier, et c'est en partie grâce à ces particules de désert, hein, que ça a lieu. Et puis, une autre partie de ces particules de sable, eh bien, se dirige vers les océans, hein, dans un mouvement plutôt horizontal que vertical, et alimente ces océans, et notamment le phytoplancton, hein, en fer naturel, phosphate, silicate, nitrate, et ça permet donc au phytoplancton, hein, de continuer à vivre, même en période de réchauffement climatique. Bon, donc, pour les biosequestrations hein, de CO2 ou d'autres gaz à effet de serre, hein, il n'y a pas de problème. Ça marche beaucoup mieux hein, que les techniques scientifiques humaines. Alors, pour la montée, merci. Pour la montée des mers et des océans, c'est la même chose. Là encore, hein, les écosystèmes côtiers savent très bien comment faire. Hein. Alors, quelques exemples. Hein. Les mangroves hein, sont présentes dans 123 pays. Elles ont, sont composées de 70 espèces d'arbres différents. Et quand les mers et les océans s'élèvent de 3 mm, mécaniquement, les mangroves s'élèvent de 5,5 mm. En effet, les mangroves, hein, elles sont alimentées, hein, suite au réchauffement global, par des vagues plus puissantes. Hein, et ça, les mangroves, elles aiment beaucoup les vagues puissantes parce que ça leur apporte des sédiments qui leur procurent des ressources minérales, hein, et donc ce qui leur permet de s'élever au même rythme, enfin à un rythme même plus élevé que l'ensemble des mers et des océans. Les marais salants ont exactement le même fonctionnement. Hein, des marais salants, il y en a partout hein, sur la planète. Bon, quant aux récifs d'huîtres sauvages, eux, ils ont pris leurs précautions. Hein, dans les 10 dernières années, ils se sont élevés 10 fois plus que l'élévation du niveau des mers. Ils sont tranquilles pour un moment. Outre les mangroves, il y a aussi hein, tout ce qui est récif corallien. Alors, les récifs coralliens, hein, on les associe beaucoup trop souvent à des déclins irréversibles. Bon, les réalités réellement réelles hein, ne semblent pas indiquer que les récifs coralliens sont dans des déclins. Quelques espèces, peut-être, mais enfin, il y a un millier d'espèces différentes de coraux durs. Hein, je parlerai des coraux mous tout à l'heure. Et en fait, hein, il y a tout un déploiement hein, de technologies naturelles hein, pour ces espèces. Alors, quelques exemples. Les coraux de couleur rose et violet hein, déploient actuellement des panneaux solaires, hein, c'est-à-dire qu'ils absorbent entièrement la lumière solaire, hein, ce qui permet évidemment aux algues qui les entourent hein, de ne pas être gênées par cette lumière solaire et ce qui leur permet de continuer à pouvoir s'en nourrir. Hein. Alors, ces panneaux solaires, hein, ces écrans solaires plus exactement, fonctionnent beaucoup mieux que les panneaux solaires de conception humaine, hein, parce qu'ils absorbent la totalité du rayonnement solaire, ce que aucun panneau solaire humain ne peut faire. Il y a également les coraux de couleur moutarde qui, eux, dans les dernières années, ont multiplié par 3 leurs évitements des bactéries nocives, donc ils sont aussi très en forme. Il y a également le corail Porites evermanni. Bon, je cite ces exemples hein, parce que c'est un exemple quand même assez emblématique du comportement de centaines d'autres espèces de corail. Lui, il vit avec des moules et il vit avec des moules pour que des balistes, qui sont des poissons, viennent non seulement manger les moules, mais croquer également le corail qu'il est. Hein, il aime se faire croquer. Hein. Alors, pourquoi cela? Eh bien, parce que ça lui permet hein, de se répandre. En effet, les balistes ne mangent ni les coquilles de moules, ni les croquettes de corail. Hein. Et donc, les balistes recrachent plus loin le tout. Et comme ce corail, Porites evermanni, se reproduit par autoclonage, eh bien, tous les bouts de corail qui tombent de plus en plus loin, eh ben, forment de nouveaux récifs. Ben, c'est son mode de répartition. Alors, dans les dernières années, ce type de corail hein, est passé des îles d'Hawaï au large de l'Amérique centrale, soit il a parcouru 2 000 km. Donc, ça fait partie des nombreux dynamismes hein, des espèces actuellement sur la planète. Alors, également, il y a des coraux qui bah, utilisent des crabes. Hein, ils attirent des crabes d'une manière ou d'une autre, et les crabes eh bien, les préservent des étoiles de mer qui sont très corallivores, hein, qui aiment beaucoup manger des coraux. Et en fait, les étoiles de mer sont mangées par les crabes, et donc les coraux continuent leur existence. Il y a plusieurs dizaines d'espèces, hein, qui utilisent ça, entre autres au large de Mururoa, par exemple, en Polynésie française, où ce phénomène existe. Alors, il y a également des dizaines d'espèces de corail qui bénéficient en ce moment, hein, à l'instar de millions d'espèces, autres que les coraux, de gènes d'adaptation. Puisque Mère Nature n'oublie pas un certain nombre d'espèces, même la quasi-totalité d'entre elles. À titre d'exemple, il n'a pas fallu, hein, plus de 15 mois à une espèce de corail pour qu'au large des îles Samoa, cette espèce s'acclimate à une eau à 35 degrés, grâce aux gènes d'adaptation fournis par les mécanismes naturels. Parmi les 200 000 espèces différentes d'algues, dont se nourrissent beaucoup les coraux, bon nombre, hein, se sont adaptées, hein, à des températures d'eau à 36 degrés. Et donc, comme elles servent, ces algues servent, enfin, un certain nombre de ces espèces d'algues servent de nourriture, eh bien, par exemple, dans le golfe Persique, hein, les eaux sont à 36 degrés, mais les récifs coralliens sont en pleine expansion parce que les algues se sont complètement habituées à 36 degrés de température. En ce qui concerne les larves de corail, dans des piscines tropicales, elles ont été soumises à plus d'acide carbonique qu'il n'y en a dans les océans et à une température plus élevée que celle des mers et des océans. Et la plupart de ces larves de corail, hein, pendant des années consécutives, ils ont été soumis à ça, la plupart de ces larves de corail sont devenues de jeunes coraux tout à fait vigoureux. Alors, tout ça concerne les récifs coralliens d'eau chaude, hein, mais les récifs coralliens d'eau froide, c'est exactement pareil. C'est-à-dire qu'eux aussi, hein, rendent le même service écologique à la planète en cas de réchauffement climatique, c'est-à-dire la protection des côtes contre l'érosion, puisque que ce soit des récifs coralliens d'eau chaude ou d'eau froide, hein, ils fournissent beaucoup de sable. Hein, et donc, bien sûr, hein, leur bonne santé fait que sur quand même pas mal de côtes sur la planète, eh bien, cette fourniture de sable permet donc aux écosystèmes côtiers de résister victorieusement à la montée des mers et des océans. Ça, c'était pour les coraux durs, mais il y a aussi les 300 espèces de coraux mous. Alors, les coraux mous, hein, ont l'avantage, eux aussi sont en pleine expansion dans les mers et les océans, ils ont l'avantage de fournir beaucoup plus de sable que les coraux durs. Et donc, quand les coraux durs ne peuvent pas rester, hein, dans des écosystèmes, eh bien, ils sont remplacés par les coraux mous. Hein. Alors, ces coraux mous fournissant beaucoup plus de sable, ils sont à l'origine, avec d'autres organismes, à l'apparition assez nombreuse de nouvelles îles et de nouveaux atolls. Alors, parmi les espèces qui, justement, favorisent, hein, ces apparitions, il y a les 9 000 espèces d'éponges marines. Alors, les éponges marines, hein, quand elles s'installent à la place des coraux, elles installent aussi la même biodiversité. Il y a plus de 250 espèces marines qui gravitent autour d'elles. Mais les éponges marines ont l'avantage de, pour la plupart d'entre elles, hein, la plupart des 9 000 espèces, de broyer beaucoup de roches calcaires, hein, ce qui, évidemment, apporte beaucoup de sédiments aux côtes, hein, mais également aux îles ou aux atolls. Et actuellement, hein, les éponges marines donc, sont en train de succéder, hein, dans les endroits où les coraux ne peuvent plus être, hein, à ces écosystèmes. Et actuellement, les côtes de l'Indonésie, côtes des Caraïbes, les côtes de l'Atlantique tropicale, s'en trouvent confortées puisque beaucoup de sédiments arrivent par le biais des éponges marines. Hein. Et donc, évidemment, au fur et à mesure que la mer et les océans, les mers et les océans montent, ces sédiments, hein, élèvent, hein, les terres, les bords côtiers, et grâce notamment aux éponges marines. Alors, à telle enseigne que dans le Pacifique Sud, 75% actuellement des atolls, hein, se sont élevés autant que les mers et les océans. Mais encore plus, les nouveaux atolls et les nouvelles îles que tous ces organismes, hein, les organismes que j'ai cités précédemment, fournissent en sable, en roche, en gravier, etc., eh bien, plus les tempêtes, les cyclones, les ouragans sont violents, plus ben, les îles et les atolls nouvellement créés ou même anciennement créés, eh bien, aiment beaucoup, parce que un cyclone très violent, ce sont 140 hectares de sédiments qui arrivent, hein, qui leur permet donc de d'anticiper la montée des mers et des océans. Et puis, toutes ces îles, ces atolls, hein, ne manquent pas d'attirer des végétaux. Alors, en quelque sorte, hein, les végétaux reçoivent une prime. Hein, ceux qui veulent rester sur les continents n'ont pas la prime, mais ceux qui vont sur les îles l'ont. Alors, effectivement, hein, les végétaux prospèrent beaucoup, hein, sur toutes les îles de la planète parce que leurs graines sont plus grosses. Les mêmes variétés de végétaux, hein, qui restent sur les continents ont des graines plus petites. Alors, évidemment qu'en cas de montée de mer et d'océan, en cas de réchauffement climatique, cela n'est pas anodin. C'est-à-dire que tous ces végétaux qui prospèrent vite et rapidement, et puis aussi de manière touffue, fournie, ne tardent pas, hein, à projeter une ombre à tous les écosystèmes que j'ai cités, hein, les récifs, les éponges, les varechs, etc. Et cette ombre, hein, elle vient réguler les températures, hein, qui s'élèvent forcément lors d'un réchauffement climatique, assurant encore mieux, hein, la poursuite de ces écosystèmes. Alors, je n'ai cité là, hein, que quelques écosystèmes marins, mais l'ensemble des écosystèmes côtiers, un peu sans problème, absorber 10 mètres d'élévation de mer et d'océan. Ainsi, hein, depuis 550 millions d'années qu'il y a de la biodiversité sur la planète, les mécanismes naturels, hein, font succéder les écosystèmes, succéder les espèces, hein, tout ça est tout à fait normal. Et ainsi aussi, cela a contribué à ce que les espèces soient prospères, et elles le sont toujours aujourd'hui. La majeure partie des 30 millions d'espèces qu'il y a sur la planète, hein, sont en bonne santé, mais aussi en expansion, hein, pour un certain nombre d'entre elles en tout cas. Et si ces espèces ont toujours connu la prospérité sur la planète, c'est parce qu'elles ont appliqué un principe très simple. Elles ont toujours voulu vivre bien, mais elles n'ont jamais voulu vivre toujours mieux. C'est-à-dire que elles ont pratiqué volontairement un rationnement, hein, des ressources naturelles. Hein, elles pratiquent toujours ce rationnement. Hein, et ce qui explique, hein, leur longévité, la moyenne de durée de présence, hein, de ces 30 millions d'espèces qu'il y a actuellement sur la planète, elle est environ de 50 millions d'années. L'espèce humaine actuelle, elle n'est là que depuis 200 000 ans. Alors, si l'espèce humaine actuelle, hein, veut s'éviter des affrontements pour la nourriture, pour l'énergie, pour l'eau, etc., elle ferait bien, hein, effectivement, de faire comme les autres espèces, hein, c'est-à-dire de pratiquer du rationnement, hein, dans ses consommations de ressources naturelles. Alors, quelques exemples, hein. Si l'espèce humaine fabriquait, hein, des produits, des appareils, enfin toutes les sortes de choses, hein, qu'elle fabrique pour longtemps, comme il est possible de le faire, hein, 20 ans pour certains, 50 ans pour d'autres, 100 ans pour encore d'autres, et qu'elle ne produisait absolument rien le temps que les biens et les produits duraient, eh bien, déjà, elle éliminerait beaucoup, hein, de consommation de ressources naturelles. Même chose, hein, avec des quotas, hein, qui pourraient, par exemple, hein, chaque individu aurait un quota d'énergie, hein, alors prenons l'électricité par exemple, hein, au bout de X heures, son compteur d'énergie se bloque, hein, il a tant d'heures d'énergie à utiliser, chaque individu a le même temps, hein, des temps peut-être un peu différents selon les circonstances, mais en tout cas, il y a une limite. C'est-à-dire qu'il n'y a plus, hein, une consommation sans limite. Ou autre exemple, hein, chaque individu ne pourrait se déplacer, faire un voyage lointain qu'une fois tous les 10 ans, ou encore un seul habitat par cellule humaine, bon, etc. Alors, nul doute qu'évidemment, ce type de rationnement que pratiquent les 30 millions d'espèces qui vivent sur la planète et qu'ont pratiqué toutes les espèces qui ont vécu sur la planète aurait d'heureuses conséquences sur les problèmes environnementaux. Alors, par exemple, rien que ne pas produire tant que les biens durs, ça libérerait des millions de kilomètres carrés et ça permettrait de laisser la nature y installer les écosystèmes et entre 50 et 100 ans, tous les problèmes environnementaux seraient résolus par les écosystèmes naturels, sans difficulté. Deuxième conséquence, dans une division par mille de la consommation d'énergie, évidemment que l'éolaire aurait une place, sans pour autant occuper les surfaces démesurées. Troisième exemple, les pollutions s'arrêteraient parce que si l'espèce humaine passait du vivre toujours mieux au vivre bien, eh bien elle n'aurait plus besoin d'utiliser des substances chimiques nocives. Dans les 80 000 substances chimiques qui sont utilisées actuellement sur la planète, il y en a des milliers qui sont totalement inoffensives. Seulement, ces milliers de substances chimiques n'apportent aucune performance aux appareils, aux équipements et aux produits. Et comme les humains veulent toujours vivre toujours mieux, eh bien, ils veulent des performances dans les appareils, etc. Et donc, ils sont obligés d'utiliser des substances chimiques. Bon, ça ne serait certainement pas la moindre des conséquences d'un passage de vivre toujours mieux à vivre bien. Voilà donc pour cette conférence. Si vous avez des questions, maintenant, on peut revenir sur certains points, des explicitations.
J'espère qu'il y a des questions.
Oui.
Des réactions aussi.
Oui, absolument.
Parce que c'était un peu provocant.
Ce sont les réalités réellement réelles. Réalité réellement réelle. Pas de provocation.
Qui est prêt à vivre bien?
Eh oui.
Il faut le micro simplement parce qu'il y a un enregistrement. Donc il faut hésiter à parler fort dans le micro.
Oui, bonjour. Je vous ai trouvé très optimiste en général. C'est vrai que c'est bien le monde que vous nous avez présenté. Finalement, n'est pas en danger.
Non. Non, c'est vrai. En revanche, l'espèce humaine, elle, l'est.
Mais, par contre, j'ai noté deux choses. Enfin, j'ai noté beaucoup de choses, mais il y en a deux qui m'ont interpellée, à savoir les mangroves, qui sont quelque chose d'indispensable pour lutter contre le réchauffement climatique, la montée.
Oui, la montée, surtout. Oui, oui.
On n'en a pas en Europe.
Non.
En
non, non, mais j'ai bien dit que je n'avais pris que quelques exemples d'écosystèmes côtiers. En Europe, il y a les dunes, il y a les marais salants, il y a les lagunes, il y a les arbres maritimes. Donc.
Mais justement, bon, il y a les dunes et le sable fait l'objet d'une exploitation terrible pour les constructions.
Ah, bah, bien sûr.
Et les plages sont de plus en plus petites et ça, c'est un véritable danger.
Ah oui, d'accord, mais ça, ce sont les comportements humains, ce ne sont pas les mécanismes naturels.
C'est vrai. C'est
voilà.
Et
c'est pour ça que si l'espèce humaine ne se met pas au rationnement, ce que vous dites continuera.
C'est vrai qu'on n'y est pas encore.
Eh non. Eh non. Bon, j'ajoute quand même une précision, c'est que c'est particulièrement embêtant pour l'espèce humaine. Pourquoi? Parce que aujourd'hui, sur 200 pays qui sont membres de l'ONU, 189 pays participent à un conflit armé, d'ores et déjà. Il n'y a que 11 pays qui ne participent pas du tout à un conflit armé. Donc, quand on voit aussi la progression des affrontements armés entre humains, il y a 10 000 ans, c'était quelques centaines d'humains contre d'autres centaines d'humains. Il y a 1 000 ans, c'était plusieurs millions d'humains contre plusieurs autres millions d'humains. Il y a 70 ans, c'était plusieurs centaines de millions d'humains contre plusieurs centaines de millions d'autres humains. Et aujourd'hui, avec 189 pays sur 200 en conflit armé, on peut quand même penser que ça pourrait être plusieurs milliards d'humains contre plusieurs milliards d'autres humains. Donc, du coup, toutes les problématiques liées à la nourriture, à l'eau, à l'énergie, bon, ça peut ajouter des causes d'affrontement et déclencher effectivement. Donc en fait, la seule espèce vraiment en danger sur la planète actuellement, c'est l'espèce humaine. Hein, les autres espèces, elles, bon, il y en a quelques-unes qui disparaissent, hein, mais une étude est parue en avril de cette année, hein, sur l'ensemble des 30 millions d'espèces sur la planète. Bon, alors fait, hein, cette étude a été réalisée par plus de 8000 scientifiques, hein, dans tous les milieux naturels, sur tous les terrains. Et il ressort de là, hein, qu'il n'y a aucune diminution du nombre d'espèces présentes sur la planète. Hein, parce que, comme je l'avais dit l'année dernière, hein, il y a 4000 disparitions d'espèces par an, mais il y a également 4000 apparitions d'espèces par an. Hein, donc en fait, ça s'équilibre. Hein. Mais en revanche, pour l'espèce humaine, on peut être inquiet parce qu'elle a quand même une propension à s'affronter et elle pourrait se faire disparaître elle-même d'ailleurs. Hein. Voilà. Alors, s'il y a d'autres questions, je ne sais pas.
Alors, vous avez beaucoup parlé de l'énergie éolaire, mais vous avez surtout parlé en fait de l'énergie éolienne.
Non, solaire aussi.
Bah, un petit peu moins, parce qu'en fait, c'est vrai qu'on imagine, pas beaucoup d'évolution d'une éolienne. Ça paraît être une technologie qui est assez aboutie. C'est vrai qu'on n'imagine pas beaucoup. Alors que. C'est pas le même cas pour l'énergie solaire, parce qu'on sait que l'énergie envoyée par le soleil sur une surface de Terre est assez énorme. Aujourd'hui, on est quand même qu'à 15%, il me semble, ou pas beaucoup plus de l'énergie qu'on peut exploiter à partir du soleil avec un panneau solaire.
Oui, c'est ça.
Donc quand même, on peut encore augmenter 6 à 10 fois l'énergie qu'on peut récupérer du soleil avec un panneau solaire.
Oui, mais seulement pour récupérer du soleil, il faut des terres rares, il faut des minerais qui sont en voie de disparition.
Mais bon, c'est vrai, sauf que actuellement, chaque année, on trouve des nouvelles technologies pour récupérer le soleil.
Bien sûr.
Il me semble qu'à chaque fois, on change légèrement la composition du panneau solaire, etc. Je pense qu'on pourra un jour trouver une composition technologique qui permettra non seulement de récupérer beaucoup plus de soleil qu'aujourd'hui, mais qui sera pas si nocive, si demandeuse.
Mais ça, effectivement, on a le droit de le penser. Hein. Mais le problème, c'est qu'il faut de toute façon, quels que soient les vous avez raison, hein, tous les jours, moi je vois sur des sites scientifiques, hein, toujours je vois percer dans les panneaux solaires, nouvelles technologies solaires, bon. Mais le problème, c'est que ça n'élimine pas le fait qu'il faut des minerais, qu'il faut des métaux, qu'il faut des terres rares et que tout est en voie d'épuisement. Que ce soit pour le solaire ou pour autre chose. Et voilà.
Effectivement. Mais et oui. Peut-être qu'un jour.
Ah oui, non, mais ça peut être avec de la magie, hein, c'est possible. Oui. Mais bon, les choses fonctionnent rationnellement. Hein, je l'ai cité, hein, l'écran solaire de ce corail. Lui, il a besoin de rien. Hein, il absorbe la totalité de la lumière solaire. Il n'a besoin d'absolument rien, ni de minerais, ni de... Bon, prenez le frelon asiatique, c'est un parfait panneau solaire naturel. Le frelon asiatique, les parties noires absorbent la lumière solaire, les parties jaunes transforment cette lumière solaire en électricité, il n'a besoin de rien. En revanche, les techniques issues de la science humaine, elles ont besoin de tout. De tout ce qu'il y a comme ressources naturelles.
Juste pour terminer, je pense qu'on peut du coup voir ce débat sur le biomimétisme qui aujourd'hui permet de... qui essaye d'imiter la nature pour répondre aux besoins humains.
Voilà.
Je pense que c'est aussi une voie qui peut être
intéressante pour la science. Mais, là encore, hein, imiter la nature, c'est très bien, mais la nature elle-même, enfin les espèces, etc., hein, leurs organismes sont producteurs de minerais, de métaux, de terres rares, d'hydrogène, d'eau, tout ce que vous voulez. En revanche, l'espèce humaine, l'organisme humain, n'est producteur de rien. Par conséquent, le biomimétisme, il faut bien des quantités de ressources naturelles pour arriver à imiter la nature. Et on retombe sur le même problème. Hey. Joël, tu voulais
hey. Ne rien faire.
Si, rationner. Rationner, ça c'est bien. C'est bien parce que ça économise les ressources naturelles et puis les infrastructures qui ne serviraient plus, ben, on pourrait les démonter, récupérer les métaux, tout ça. Bon, voilà, ça c'est quelque chose de faisable. Je crois que Joël a une question. Pardon ? Ouais, mais ça c'est pas du rationnement. Hein. Moi je parle de rationnement pour tout le monde. Hein. Oui. Pas déséquilibré. Oui.
Tu parles du nombre d'espèces, mais je pense que le critère qu'il faut prendre en compte, c'est aussi le nombre d'individus qui représentent chaque espèce.
Oui, bien sûr.
Tu prends les tigres, il y en a plus que 3000.
Oui.
Et on pourrait se scandaliser du fait qu'il n'y a plus que 3000 tigres,
alors
qu'il y a 7 milliards d'humains. Donc c'est un critère qu'il faut prendre en compte aussi.
Tout à fait, oui, absolument.
Donc, je voulais te demander ce que tu penses de l'économie circulaire, parce que tu dis effectivement qu'il va y avoir des disparitions des matières rares, etc. On va avoir des problèmes pour les panneaux solaires. Moi, j'ai entendu dire qu'on pourrait générer un panneau solaire au bout de 20 ans, etc. Qu'est-ce que tu penses de l'économie solaire?
Circulaire. Bah, disons que ça revient un petit peu hein, à faire attention à ce qu'on consomme. En fait, c'est ça. Hein. Moi, c'est ce que j'appelle rationnement. Hein, c'est un petit peu récupérer, recycler, dans d'autres utilisations. Ouais. Hein, voilà.
Moi, j'ai vu un article sur. C'était deux ingénieurs centraliens qui avaient créé un bouquin contre l'économie circulaire. Ils disaient que, en fait, à cause des effets dispersifs, il y a toujours à chaque cycle de recyclage, il y a toujours une perte de matière.
Ça ouais, fait c'est vrai. Compte, non, mais c'est vrai. C'est tout à fait vrai.
C'est pas une solution.
Oui, tout à fait vrai. Exactement comme le béton recyclé, par exemple, personne n'en veut parce que, bah, effectivement, il a perdu. De sa solidité, de sa fiabilité, oui, c'est vrai. Oui, tout à fait. C'est pour ça qu'il vaudrait mieux rationner, enfin, dès le départ, quoi. Hein, c'est-à-dire.
Surtout que là, on est face à une urgence avec le réchauffement
climatique. Ah, plutôt, oui. Oui.
Compter sur la science, ça semble très imprudent, parce qu'on ne sait pas quel état de la science, le problème, il a lieu maintenant.
Bah oui.
C'est très imprudent.
Oui, puis surtout, c'est. Disons que le problème, c'est que toutes les technologies issues de la science des humains nécessitent des ressources naturelles. Donc.
Rationner, moi je préférais dire, pour essayer de contrôler, de maîtriser ce qu'on consomme, je préférerais passer de dire, déjà éduquer, donner des notions.
Oui, bien sûr.
Notions, parce que rationner, ça fait. Si on n'a pas expliqué pourquoi.
Ouais.
Alors moi, il y a un exemple que j'aime bien, c'est la capsule de Nespresso. Si je prends un café avec une capsule de Nespresso, et je m'étais amusé avec un collègue, on avait dit, on va essayer de voir ce que ça représente en énergie.
C'est pas grave.
Enfin, pas grave.
Non, parce que je touche un pourcentage sur l'espresso, alors.
Il attaque l'espresso, là, ça a fait du jeu l'appareil. Et alors on s'est dit, tiens, on va comme ça, avec nos petits moyens, on va regarder sur Internet ce qu'il faut comme énergie.
Oui, tout à fait. Tout à fait.
Poil, la capsule en aluminium. Et si je ne me suis pas trompé, enfin, si on ne s'est pas trompé, il fallait courir en énergie. Capable de produire moi-même avec mon corps, il aurait fallu que je fasse presque un marathon pour produire cette capsule en aluminium. Je pense que ça réduirait quand même le nombre d'amateurs de café. Je leur dirais, pour mériter ton café du matin, il va falloir que tu fasses un petit marathon.
Ça fait. C'est vrai. Oui, non mais évidemment, moi je n'ai fait qu'est-ce qui sait. Après, on peut habiller et puis prendre d'autres expressions que rationnement, bien sûr. L'essentiel, c'est le fait que. Contrairement à l'ensemble des 30 millions d'espèces qui, elles, pratiquent le rationnement des ressources naturelles depuis toujours, toutes les espèces ont fait ça.
Est-ce qu'à partir du moment où on a commencé à taper les silex pour faire du feu?
Oui, mais ça, c'était il y a quand même plus longtemps. Hein, moi, j'ai dit, depuis une dizaine de milliers d'années, l'espèce humaine a commencé à vouloir toujours mieux vivre.
Je prends cette image-là parce que. À partir du moment où on est capable de générer une énergie autre que celle que toutes les autres espèces ne peuvent générer que par leur organisme, là, on démultiplie la notion d'énergie Et c'est là où l'espèce humaine, elle se distingue de par cette, ce facteur d'amplification comme ça.
Oui, oui, bien sûr, mais le problème, c'est que c'est quand même avec des énergies naturelles, enfin, des ressources naturelles, quoi. Oui,
voilà. Mais c'est en mettant en œuvre...
Oui, oui, d'accord, d'accord.
En mettant en œuvre une capacité à dégager l'énergie autrement que par sa bioénergie.
Oui, oui, tout à fait, oui, ça, d'accord. Oui. Mais justement, hein, étant donné que les organismes humains ne produisent rien finalement, par eux-mêmes, hein, l'espèce humaine a besoin de toutes les sortes de ressources naturelles, et c'est pour ça que je parlais de rationnement. Quoi. Hein, parce que même des espèces qui produisent des énergies, hydrogène, tout ce qu'on veut, se rationnent quand même, pour pouvoir durer très longtemps.
Mais comme ils se rationnent,
exactement, tout à fait.
C'est l'organisme qui régule.
Ça, c'est vrai.
Alors que nous, maintenant, on produit d'une manière qui n'est plus naturelle.
Oui, absolument.
On n'en a pas conscience. Quoi.
Absolument. Mais cette production, elle remonte quand même à une dizaine de milliers d'années. Ça a commencé là. Hein. Ah, puisque l'agriculture, c'est à peu près autour de 10 000 ans que ça a commencé. Hein. Bon, alors, quand on tapait des silex les uns sur les autres, ça, c'était il y a 3 millions d'années. Ça a commencé. Voilà. C'est pour donner le chef de grandeur. D'autres questions, peut-être ?
Je ne sais pas, j'aurais voulu vous demander si vous, comment vous aviez... Quels éléments vous aviez sur Fukushima ? Parce que là, l'empreinte de la catastrophe de Fukushima, et justement, quand vous dites si l'homme disparaît, l'homme peut disparaître...
Se faire disparaître lui-même, disons.
Comment ?
L'espèce humaine peut se faire disparaître elle-même.
Voilà, elle-même, mais est-ce que dans des endroits où elle aura mis trop de radioactivité, bon, on voit avec Tchernobyl, c'est pas si évident que ça, mais est-ce qu'on aura quand même limité la capacité à une grande panoplie d'organismes de pouvoir se perpétuer dans certains endroits si on les a trop...
Irradiés.
Oui, irradiés.
Bah, disons que sur les 30 millions d'espèces, il y en a beaucoup plus qui supportent l'irradiation nucléaire que des espèces qu'ils ne supportent pas. Et ce n'est pas du tout une question de genre, hein, ce n'est pas réparti par genre. En fait, dans chaque genre, alors reptiles, oiseaux, mammifères, etc., il y a des espèces qui supportent et des espèces qui ne supportent pas. Ben, bon, donc, disons que, bien sûr que si l'espèce humaine disparaissait et laissait toutes ses centrales nucléaires, ben, il y a un certain nombre d'espèces sur la planète qui en pâtiraient, mais il y en a d'autres, au contraire, qui seraient stimulées. À Tchernobyl, par exemple, il y a une dynamique. Hein. Il y a des espèces qui ont disparu, ça c'est clair et net. Hein. Il y a des espèces qui ne supportent pas les irradiations nucléaires, elles ont disparu, c'est normal. Mais il y a toutes sortes d'espèces qui soit sont restées, soit sont venues. Hein. Et qui sont donc dans des physiologies normales en plus. Hein. C'est-à-dire que ce ne sont pas des espèces à trois pattes, à quatre ailes, pas du tout. Hein. C'est des espèces normales avec des individus normaux. Alors, par exemple, à Fukushima, actuellement, hein, quelque chose de très amusant quand même, c'est que dans la zone de 20 km, hein, où manifestement aucun humain n'ira plus, puisque l'espèce humaine, elle est très sensible hein, aux radiations nucléaires. Hein. Elle fait partie des espèces très sensibles. Dans cette zone de 20 km, actuellement, les sangliers s'en donnent à cœur joie. Hein. Ils arrivent, ils détruisent toutes les maisons, hein, et ils s'installent. Parce que eux, les radiations nucléaires, ils s'en foutent. Voilà, donc ils sont très, très dynamiques là-bas.
Bon, bah,
ça serait bien.
Hein. Il y a une explication
ou... vous savez, comme je l'ai dit, hein, il y a des espèces qui sont, lorsqu'elles sont irradiées, bah, tout leur organisme est brûlé, etc. Et puis il y en a d'autres hein, qui ont des protections naturelles. Hein. Alors, c'est pas extrêmement, extrêmement étudié, hein, ça, malheureusement. Hein, mais bon, en tout cas, sur Tchernobyl, hein, ce qui est certain, et même sur Fukushima, avec les sangliers, ce qui est certain, c'est qu'il y a des espèces qui continuent ou qui sont accourues pour y vivre. Ah, puis il y en a d'autres qui ont disparu, sont allées ailleurs. En tout cas, pour Fukushima, hein, c'est en quantité hein, de radionucléides, c'est 20 fois plus que Tchernobyl. Alors voilà, ça c'est une certitude.
Puis la radioactivité, elle n'a pas vocation à durer éternellement, parce qu'elle va décroître dans le temps. Oui. Dans 200 000 ans, il y aura...
Oui, dans 200 000 ans, mais bon...
Non, mais il faut que je raisonne quand on parle...
Oui, oui, de la nature, absolument. sur le très long terme, tout à fait, oui. Tout à fait. Oui, oui.
Alors, prenons
moi, je trouve que...
Je crois qu'il y avait une question là-bas, il me semble.
Oui, je donne juste une petite question. Je trouve que le mot rationnement, ça fait un petit peu privation de la dernière guerre.
Oui, bien.
Est-ce qu'on peut le remplacer par sobriété? Ou est-ce que pour toi, c'est pas pareil?
Non, c'est pas exactement pareil. Enfin, disons que le mot rationnement a l'immense avantage que... Enfin, peut-être en trouver un autre, mais... En tout cas, ce qu'il faut évoquer avec un mot pour résumer, c'est la notion de quantité maximale absolue par individu. De quoi que ce soit, de tout. Voilà. C'est pour ça que le mot rationnement me paraît... voilà. Sobriété, c'est les gestes, les petites choses. Bon. Alors, je crois que monsieur avait une... Ou madame aussi, peut-être. Oui, il y a monsieur là-bas au fond. Ah, oui, les terres rares.
Il n'y a que cette planète qui a des terres rares.
Non, non, probablement pas, très probablement pas, puisque toutes les composantes qui existent actuellement sur la planète ont existé sur toutes les autres, du système solaire, j'entends, bien sûr. Enfin, par exemple, par des prélèvements géologiques avec, vous savez, le petit robot là, sur Mars, il a été ramené pas mal de choses, et il y a des composantes qui sont différentes, mais il y en a aussi qui sont communes, en matière de géologie, etc. Bon. Donc, mais en revanche, les terres rares, elles sont 17, et systématiquement, elles sont toutes ensemble. C'est-à-dire que quand on n'en veut qu'une, le problème, c'est qu'il faut dissoudre les 17, et évidemment avec des solvants très toxiques. Une exploitation de terres rares, c'est comme une exploitation de gaz de schiste. C'est le même paysage. Bon, donc, il y en a sur les autres planètes, et d'ailleurs, il y a des minerais et des métaux également communs avec les autres planètes. Mais, en tout cas, pour ce qui concerne la planète Terre, l'ensemble des minerais, métaux et terres rares est en voie d'épuisement. Ça, c'est clair et net. Pas seulement pour tout ce qui est éolaire, mais pour tout le reste, quoi. Notamment pour l'électronique.
Pour les centres d'enfouissement technique, nos décharges, est-ce qu'on peut retrouver un certain nombre de terres?
J'ai pas entendu, là.
Dans les centres d'enfouissement technique, les décharges qu'on remplit depuis des dizaines d'années...
Oui, on peut récupérer beaucoup de choses. Tout à fait. Oui, tout à fait. Oui, ça se serait. Mais, comme l'a dit... je crois que c'était monsieur, oui, il me semble. Quand même, quand on récupère des matériaux et diverses choses, le problème, c'est qu'il y a quand même une certaine altération. Voilà. C'est-à-dire qu'on peut l'utiliser pour certains usages, mais on ne peut pas les utiliser en général pour l'usage initial. Ah, il faut savoir trouver un autre usage qui correspond à quelque chose d'un petit peu dégradé, quoi. Donc, je crois que madame avait une question. Est-ce que j'ai répondu à votre question, monsieur?
Oui.
Oui, bon.
C'était juste pour un commentaire un peu provocateur par rapport au désert. Donc, si on vous suit jusqu'au bout, l'expansion des déserts est bénéfique pour la planète.
Oui. Ben, oui.
Et la disparition des forêts, à la limite, il faut qu'elle se transforme en désert.
Non, non, je n'ai pas dit ça quand même.
Provocateur.
Non, je n'ai pas dit ça. J'ai dit simplement que pour la planète, il est vital de récupérer l'albédo perdu. Bon, donc elle va chercher à désertifier des sols déjà qui sont pas du tout des sols forestiers, mais des sols qui sont semi-arides ou des sols qui sont en sécheresse, mais elle va chercher à transformer en désert des sols nus, pas du tout des forêts. Non, il n'y a pas ce processus-là. Les mécanismes naturels n'agissent pas ainsi. Les humains, oui, mais pas les mécanismes naturels.
L'albédo,
Alors, l'albédo, c'est le fait que les couleurs claires de la planète renvoie le rayonnement solaire vers l'espace. Ce qui évite, évidemment, une chaleur supplémentaire sur la planète. C'est ça, l'albédo. Alors, par exemple, hein, j'ai parlé des déserts, 30% de rayonnement solaire renvoyé. La cryosphère, donc les espaces blancs, glacés, 80%. Mais d'autres exemples, hein, l'ensemble des cours d'eau sur la planète renvoie 8,5%, donc pas énorme, mais c'est déjà ça. Et les cultures humaines, donc les légumes, les fruits, enfin, etc., toutes les cultures humaines, renvoient 10%. Bon, ce qui n'est pas négligeable. Ça, ça semble difficile. Hein.
Puisque j'ai récupéré cette chose magique, qu'est-ce que je vais pouvoir dire ? Non, mais parce que effectivement, le mot rationnement, je me posais aussi la question, ça va pas bien. Tout le monde a envie d'être heureux.
Non, non, mais rationnement, c'est vivre bien.
Oui,
mais ça n'est pas synonyme dans le
monde humain. Ah non, mais pour les 30 millions d'espèces, c'est synonyme. Et c'est pour ça qu'elles sont là depuis longtemps. Oui.
Moi, j'aime l'abondance, mais l'abondance, c'est pas forcément. L'abondance, c'est l'abondance de l'amitié, l'amour.
Ah oui, d'accord, mais ça, moi, je n'ai pas parlé de ça, moi.
Non, non, mais aussi, l'abondance, je pense que l'abondance, elle existe, on se promène dans... C'est le fait qu'il y ait une grande diversité, qu'il y ait de la beauté.
Ah bah oui, bah justement, oui.
L'important, c'est la beauté, le bonheur. Ouais. Et on s'achemine, on est dans un monde mortifère.
Mm-hmm.
Mortifère.
Ah bah oui.
Mortifère. C'est une illusion d'abondance. Il y a la vraie abondance et la fausse abondance.
Oui, tout à fait. Tout à fait. Oui, mais moi, je ne parle pas de rationner la véritable abondance.
Ouais,
je parle de rationner la consommation dans le sens naturel, hein, point final.
La consommation est quelque chose de triste, c'est ça. On rend les humains comme des robots.
Ah oui,
ça rend les gens agressifs les uns par rapport aux autres.
Ah oui, tout à fait.
De beaucoup d'entre nous, et oui, une des réalités, mais elle est à prendre en compte. C'est-à-dire que je pense que si on dit se rationner, oh, je crois que je parle assez de temps.
On dit se rationner à des gens aujourd'hui, je pense qu'ils vont rejeter pour la plupart cette idée parce que ça a une connotation négative.
Ah, bah oui.
Alors, pour vous, et peut-être pour un certain nombre d'entre nous ici, l'abondance, c'est ce que vous avez défini, l'amitié, les merveilles de la nature, etc.
Oui,
pour la majorité des gens, l'abondance, c'est avoir la dernière voiture qui va sortir,
voilà.
Avoir le dernier téléphone, je ne sais pas, même pas le nom, parce que c'est pas mes préoccupations. C'est avoir le dernier, je ne sais quoi, appareil high-tech, ou je ne sais quoi. Et donc, si ces gens-là, on leur parle de rationnement, ils ne vont pas adhérer à cette idée.
Mais de toute façon, on peut leur parler de tout ce qu'on veut, on peut employer n'importe quel mot, ils n'adhéreront pas davantage.
Mais si, mais c'est ça l'enjeu, je pense, pour sauver l'espèce humaine, puisque je comprends que ce n'est pas la planète qu'on va sauver, puisqu'elle va être sauvée.
Oui.
Mais c'est ça l'enjeu, c'est de faire comprendre aux gens dont on peut faire partie, dont je peux faire partie à certains moments vraisemblablement, que si on ne change pas notre fonctionnement, notre manière de voir, on va à notre perte.
Mm-hmm.
Mais comment peut faire entendre raison à ces gens-là et donc à nous pour qu'on n'ait pas l'impression de perdre quelque chose déjà dans notre quotidien en nous rationnant. Moi, je trouve que c'est de la com, ça, mais c'est l'enjeu qui fait,
bien sûr.
Qui fera que ça se mettra en œuvre ou pas.
Mm-hmm. Oui, non, mais on peut évidemment utiliser des mots moins, mais il faut bien expliciter en ce cas que ça concerne justement ce que vous dites, hein, c'est-à-dire le dernier truc, la dernière machine, voilà, et même d'une manière générale, un petit peu tout, quoi. Hein. Mais bon, il faut quand même qu'il y ait une notion de quantité, sinon...
De qualité, alors. Passer de la quantité à la qualité, alors.
Oui, pourquoi pas, hein, ça peut être ça aussi.
Un déconditionnement, en fait.
Ah oui, complètement, oui. Ah, mais vous avez tout à fait raison. Hein. Toutes vos objections sont exactes. Hein. C'est, ah oui, ça c'est sûr. Mais, bon, disons que si on ne donne pas, par un mot, par des expressions, la notion de quantité limitée, et non plus le comportement humain qui consiste à se limiter en rien, ça ne va pas servir à grand-chose. Non, mais moi je ne parle pas de beauté. Hein. Je n'ai pas parlé de beauté du tout. Peut-être.
On va faire dire ce mot. Jusqu'au bout.
Non, c'est, je pensais à toute l'énergie qui est dissipée dans les serveurs informatiques, dans les plateformes. Mm-hmm. Ça, c'est énorme. Je veux dire, pour l'instant, on se préoccupe pas du tout de la récupérer, cette énergie.
Non. Non, non, tout à fait. Hein.
Et pour stocker peut-être des données, moi, peut-être que l'email que j'ai envoyé il y a 5 ans, il est toujours sur un serveur.
Il est toujours sur un serveur, absolument.
Oui,
tout à fait.
Ouais.
Non, mais
il sert plus à rien.
Voilà, exactement.
Mais il y a toujours de l'énergie qui est utilisée pour le stocker.
Tout à fait. Tout à fait.
Et c'est complètement exponentiel. Quoi.
Et effectivement,
on maîtrise pas du tout parce qu'on s'en fout. Pour l'instant, c'est pas encore suffisamment présent ce problème. Mm-hmm. Enfin, on n'est pas dans cette logique.
C'est pour ça qu'il est temps de revenir à l'énergie.
Dans 37.2, là, à un moment donné, ils sont grosse bagnole américaine, et un des personnages qui dit je suis content d'avoir cette voiture, mais c'est la fin de c'est l'époque des dinosaures, quoi. Et c'est une époque où on aimait bien appuyer sur l'accélérateur et avoir les chevaux, le nuage de carbone,
tout à fait,
absolument,
tout à fait.
Et il faut que ça évolue, hein. Mais par contre, la société de consommation elle nous attire pas, elle nous éveille pas à ça.
Non.
C'est toujours les gros poils de mazout qu'on voit sur la route, là, c'est toujours à la mode, en fait.
Bah oui.
Bien que ça soit complètement anachronique. Alors, je ne sais pas si vous présentez les gros poils de mazout.
Non, je ne vais pas jusque-là. C'est pour ça que j'ai laissé l'appareil là. Bon, d'autres questions peut-être ?
Il y a quand même un point très positif, quand même, aussi. C'est qu'il y a plein de jeunes dans la salle.
Oui, c'est vrai. Merci les jeunes. Bravo. Bravo les jeunes. Bravo les jeunes.
Ils vont porter les changements du rationnement, entre autres.
Ah, ça.
Il y aura plus de partage. Ça serait peut-être.
Merci Jean-Luc de nous avoir fait réfléchir.
Oui, absolument. Absolument. Merci à vous d'être venus si nombreux. Très bien, très très bien, malgré la pluie.